L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdrille.
Bonjour, si nous avions vécu du temps de Jésus, il nous aurait certainement déçus. Oui, quelle déclaration étonnante, mais on va le voir ensemble. Si on avait été du temps de Jésus, et à partir de toute façon du moment où on est en relation avec quelqu'un et où on a des attentes envers cette personne, à un moment ou à un autre, cette personne va nous décevoir. Cette semaine, je vais partager avec vous une série que j'ai intitulée « Walk in Love, marche dans l'amour ». Et je vais partager avec vous quelques pensées que j'ai pu partager dans mes trois livres Walk in Love, dont les deux nouveaux que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et pour commencer, bien que Jésus soit parfait, sans aucune faute, sans aucun péché, je crois en effet qu'à un moment ou à un autre, si on avait fait partie des 12 disciples, il nous aurait déçus, on n'aurait pas compris certaines réactions et certaines choses, et on va voir ça ensemble. Je vous propose une petite histoire pour commencer. Imaginez que vous soyez une maman. Vous êtes camerounaise, vous habitez dans un petit village en France. Et chaque jour, depuis de nombreux mois maintenant, vous avez une fille de 10 ans qui souffre cruellement. Régulièrement, elle se met dans un état second, elle se griffe elle-même, elle se frappe, elle se griffe parfois jusqu'au sang. Et elle est complètement paniquée lorsqu'elle sort de cet état second. Parfois en pleine nuit, vous l'entendez pleurer de douleur. Les médecins que vous êtes allés voir n'ont rien pu faire pour elle. Son état ne fait que d'empirer et vous êtes complètement désemparé. Alors vous entendez parler d'un ministère de guérison et merci Seigneur pour les ministères de guérison. Et vous savez que l'homme de Dieu, qui a amené beaucoup de personnes à la guérison grâce à Jésus-Christ et au message de l'Évangile, il va venir pas très loin de votre village. Une amie vous a dit que cet homme de Dieu a guéri des milliers de personnes partout, à Paris, dans la région parisienne, également dans d'autres régions. Et elle-même, votre amie, a reçu une guérison miraculeuse. On dit de cet homme de Dieu qu'il est super gentil, qu'il prêche l'amour, il dit qu'il faut aimer les gens comme nous-mêmes. Et on dit que cet homme de Dieu se fâche régulièrement contre les prêtres, les pasteurs, ceux qui parmi eux, en tout cas, font des différences entre les gens. Et il prêche que tous peuvent venir à lui pour avoir la vie. Et votre ami, donc, elle vit à 15 km seulement de chez vous. Vous laissez votre fille à la maison pour aller le voir et votre fille est en pleine crise. Mais comme l'homme de Dieu passe par là, il faut absolument que vous puissiez le rencontrer. Comme vous n'avez pas le permis, vous êtes obligé de marcher, il n'y a pas de bus, rien. Et pendant 3 heures, vous marchez et là, vous voyez l'homme de Dieu entouré des personnes de son équipe et de pas mal de gens. Alors, vous vous mettez à crier parce qu'il y a tellement de gens, tellement de monde qui sont là réunis à l'extérieur. Et vous lui dites « Homme de Dieu, aie pitié de moi !» Et l'homme de Dieu, bien qu'il vous entende, ne se retourne même pas. Et vous répétez ces mêmes paroles « homme de Dieu, j'ai besoin de toi !» Et les gens de son protocole, ses disciples, si on veut, des Français, vous demande de vous taire et de le laisser tranquille. Là, vous n'en croyez pas vos yeux ni vos oreilles et vous demandez si vous vous êtes pas trompé d'homme de Dieu, si c'est bien lui dont on vous a parlé et peut-être si votre ami vous a raconté n'importe quoi, mais vous avez confiance en elle et vous croyez, vous savez que c'est la bonne personne, alors vous êtes un peu dans la confusion. Finalement, deux des personnes de son équipe parlent avec lui un peu plus loin parce qu'il a continué à marcher. Et ils reviennent en vous disant qu'il n'est pas venu pour des gens de votre nationalité. Rappelez-vous, vous êtes camerounaise dans un petit village en France, mais il est venu seulement pour les Français qui souffrent. Et là, vous êtes choqué. Encore, vous demandez, mais est-ce que c'est bien de lui dont on m'a parlé? Lui qui dit qu'il ne fait pas de différence entre les gens. Et vous êtes confuse. Vous cherchez à lui parler alors qu'il continue de marcher plus loin, mais ces espèces de gardes du corps vous retiennent et vous voyez l'homme de Dieu entrer dans une maison un peu plus loin. Alors vous essayez de persuader son équipe, ses hommes, en criant, en demandant de l'aide. Vous commencez là à pleurer de désespoir et d'incompréhension. Vous pleurez là sur le sol. Ses hommes le rejoignent dans sa maison et vous laissent là toute seule. Vous êtes confuse. Vous souffrez intérieurement. Vous pleurez. Vous ne comprenez rien. Vous avez été voir des médecins. Et là, c'était l'occasion que votre fille puisse être guérie et délivrée. Mais apparemment, ni l'homme de Dieu, ni les personnes de son équipe n'ont un seul trait de compassion pour vous. Alors finalement, tentant le tout pour le tout, vous entrez dans la maison parce que vous l'avez vu au loin et vous avez vu la maison, en imaginant que l'homme va finalement faire quelque chose pour vous, avoir compassion, et il est là, allongé tranquillement sur le canapé. Et vous vous apercevez qu'en fait, il s'est caché dans la maison, pas pour venir au secours de quelqu'un ou parce qu'il avait quelque chose à faire d'urgent, mais simplement pour s'allonger tranquillement sur le canapé. Mais votre fille, elle souffre énormément en ce moment. Et c'est votre seule chance, vous ne voulez pas la manquer. Et même si tout ça vous semble complètement fou, vous êtes enfin en face de cet homme que tout le monde réclame et dont tout le monde dit du bien. Alors, vous prenez votre courage à deux mains, de toute façon, vous ne pouvez faire que ça. Votre fille, vous l'avez laissée en pleine crise. Et vous lui expliquez la situation de votre fille, elle est cruellement tourmentée par un démon, elle en souffre énormément. Vous lui demandez de chasser ce démon, de venir avec vous, parce que vous savez que c'est une chose extrêmement facile pour lui et qu'en disant seulement une phrase, les gens sont délivrés. Vous avez entendu témoignage sur témoignage de ce genre de situation dans la vie de cet homme de Dieu. Et après lui avoir raconté les souffrances de votre fille, comment elle souffre quotidiennement, vous lui avez expliqué voilà ce qui se passe, le jour, la nuit, comment elle souffre, comment elle pleure, comment elle crie. Il vous répond avec des propos qui vous semblent complètement racistes et des insultes, comparant votre fille et vous-même à des chiens. Il dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vous l'avez compris, c'est l'histoire de cette femme grecque d'origine syro-phénicienne qui est venue vers Jésus pour que sa fille puisse être délivrée. Cette histoire est entièrement vraie, bien sûr, j'ai illustré à ma manière cette histoire pour nous montrer si nous avions été dans cette situation. Notre fille en train de souffrir. Et Jésus qui continue à marcher, qui ne répond rien. On arrive dans la maison comme cette femme. Et là, il nous dit une telle parole qui semble raciste pour les Juifs. Je vous rappelle que les chiens, c'était comme les porcs. C'était des animaux abominables. Et il vous compare à un porc, à un chien. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et en lisant cette histoire dans l'évangile de Matthieu et de Marc, on voit que les choses se sont passées comme ça. Et je vous pose une question. En toute honnêteté, qu'auriez-vous fait à la place de cette femme? Pour nous, c'est facile, on connaît Jésus, il nous a sauvés, on peut se dire « Ah ouais, mais on aurait compris, etc. » Mais en fait, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de cette femme? Alors, je vous propose une deuxième histoire. Vous vous appelez Jadu. Et un jour, un homme de Dieu vient vers vous, vous propose de l'accompagner dans son ministère, vous avez un appel au ministère, en tout cas, vous ressentez quelque chose. Et dans plusieurs villes, il vous encourage à le suivre pour l'accompagner dans son ministère et pour vous former dans le ministère. Vous quittez un travail bien payé, vous le suivez pendant des mois avec 11 personnes. Vous faites ensemble de longues routes, vous prenez l'avion, etc. Vous allez de lieu en lieu et vous dormez dans des auberges, dans des hôtels. Vous ne recevez pas de salaire, vous travaillez à temps plein, bénévolement. Mais au moins, tous vos frais, nourriture, logement, hébergement donc sont payés par son ministère. Cet homme, il prêche l'amour, il vous dit que vous serez tous les jours avec lui et vous commencez à avoir des différences. Parmi l'équipe de 12, il y a une personne qui est beaucoup plus proche de cet homme de Dieu. Et deux autres personnes sont aussi plus proches que vous l'êtes de lui. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure de vos voyages qui sont souvent fatigants, vous percevez que quelque chose ne va pas. Et un jour, en vous réveillant, peu après vous être endormi, vous voyez au loin, donc par la fenêtre, trois personnes de l'équipe avec l'homme de Dieu. Et c'est justement les trois personnes à qui l'homme de Dieu a donné des noms de super-héros. À vous, il ne vous a donné aucun nom, mais à eux, oui. Les fils du tonnerre, le roc, ils ont l'air de parler sérieusement et vous vous demandez bien ce qu'ils peuvent se dire. Le lendemain, vous vous apercevez que l'homme de Dieu et les trois hommes n'ont pas dormi là. Vous trouvez ça vraiment étrange? Vous sortez dehors, des gens viennent pour que vous puissiez prier pour eux. En fait, ils cherchent l'homme de Dieu. Et un homme vous demande de délivrer son fils qui, apparemment, a une maladie psychiatrique. Il essaie de se suicider, ce fils-là. Régulièrement, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau pour se tuer. Et parfois, il est tout à fait normal et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors, avec les autres personnes de l'équipe, les 9 autres personnes, vous priez pour cet enfant de tout votre cœur, mais impossible de le délivrer. Et tout à coup, il y a une montagne juste en face de vous. L'homme de Dieu avec les 3 autres collègues descendent et le père de l'enfant dit à l'homme de Dieu, vous n'avez pas réussi à chasser le démon de son fils. Et l'homme de Dieu dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Vous vous demandez pourquoi il est fâché et s'il vous parle à vous ou s'il parle au père, vous vous dites que s'il parle à vous, comment il peut vous demander jusqu'à quand il sera avec vous parce qu'il n'était même pas là cette nuit, il était sur la montagne tranquillement avec les 3 autres disciples. Vous l'avez compris, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Pendant le reste de la journée, vous remarquez que les 3 autres personnes qui sont parties avec lui, toute la nuit, sont trop bizarres. Ils se parlent entre eux, ils font des messes basses. Alors le soir, en rentrant dans le Airbnb où vous logez tous, vous leur demandez « Mais où vous avez passé la nuit ?» Mais ils vous disent que l'homme de Dieu vous a dit de ne rien raconter. Et là, vous trouvez ça injuste parce que l'homme de Dieu vous avait promis qu'il serait tous les jours avec vous et qui ne ferait pas de différence. Et régulièrement, vous voyez ce petit trio, ce petit groupe avec l'homme de Dieu, et au bout d'un moment, même une 4e personne se rejoint à ce groupe, mais toujours pas vous. Alors vous voyez régulièrement des gens faire des offrandes à son ministère. Heureusement, il vous en a donné la gestion. Vous gérez cet argent et vous apprenez que sa propre famille dit de cet homme de Dieu qu'il a perdu la tête. La plupart de ceux que vous considérez comme des vrais pasteurs disent que c'est un imposteur. Vous savez que ces miracles sont vrais, mais vous posez de sérieuses questions sur sa façon de vivre. Alors, il est souvent en train de manger, il est invité à manger chez des alcooliques, avec des gens qui font n'importe quoi de leur vie. Dans un mariage, il a changé des tonneaux d'eau en vin, alors que les invités étaient déjà pour plusieurs d'entre eux sous. Mais lui, il rajoute du vin, alors que les gens sont sous. Vous l'avez déjà vu discuter seul avec une femme pendant qu'il se reposait auprès d'un puits. Et il vous a demandé ce jour-là d'aller chercher à manger, mais quand vous êtes revenu, vous êtes fatigué, lui il est resté tranquillement en train de se reposer, vous venez avec l'argent, avec la nourriture, et finalement il vous dit, ben non, j'ai pas faim, je ne vais pas manger. Alors quelques jours plus tard, il y a une femme qui rentre dans une maison, et on a invité toute votre équipe de missionnaires, elle arrive avec une enveloppe contenant 400 billets de 50 euros. Vous reconnaissez bien cette femme, parce que la dernière fois que vous l'avez vue, elle s'est affalée par terre en pleurant aux pieds de l'homme de Dieu, lui essuyant ses pieds, de ses larmes, avec ses propres cheveux. Tout à coup, elle prend un plat, elle brûle l'enveloppe contenant 20 000 euros comme une offrande envers l'homme de Dieu. Et là, vous trouvez ça insupportable, vous êtes fâché en colère, car vous auriez bien voulu prendre un peu de cet argent, et vous dites bon, qu'il aurait fallu le donner aux pauvres. Et l'homme de Dieu, non seulement non content de voir ce que cette femme a fait, mais en plus, il commence à faire des éloges de cette femme. Ma question, frères et sœurs, en toute honnêteté, qu'auriez-vous fait à la place de Judas? Bien que ce soit illustré et que ce n'est pas une enveloppe contenant 20 000 euros qu'elle a donnée, mais c'est un parfum qui valait l'équivalent d'une année de salaire qui a été comme ça, dilapidé en fumée. Pierre, Jacques et Jean étaient les 3 disciples de Jésus. Ils étaient régulièrement avec lui, laissant les autres, comme en allant à la montagne de la Transfiguration. Et le lendemain, quand ils descendent et que les disciples sont là et qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon, les choses se sont passées telles quelles. André va être le 4e homme qui va être ajouté au trio au bout d'un moment. Et là, Judas a commencé à percevoir toutes sortes de choses. Et j'ai parlé de ces choses dans le premier livre, Walking Love. Alors, frères et sœurs, il y aurait bien des situations. Et ces 2 histoires, c'est un angle différent. J'en ai pas parlé dans mes livres. J'ai plus parlé de David. Mais est-ce que vous n'auriez pas été vexé à la place de Judas ou d'un autre disciple? Que Jésus ait un trio particulier, que Jésus ait donné à ses 2 frères des surnoms, les fils du tonnerre, à un autre, le roc, et finalement à vous, rien du tout. Est-ce que vous n'auriez pas été fâché même au bout d'un moment, si vous ne faisiez même pas partie des 12, que vous aviez envie d'en faire partie, et là Jésus choisit 70 disciples, mais vous, non? En fait, frères et sœurs, il est fort possible que Jésus nous aurait déçus, bien qu'il soit parfait en tout. Et je pourrais vous parler d'Élisée, avec Élie, dont l'une des tâches était de lui apporter de l'eau pour se laver les mains. Sérieusement, est-ce que Élie ne pouvait pas le faire lui-même? Je pourrais vous parler de David, qui un jour avait soif. Et la ville était encerclée, il a demandé d'aller chercher à boire. Ses serviteurs ont risqué leur vie pour lui apporter un peu d'eau. Et une fois que les serviteurs ils auraient pu mourir, ils apportent de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il le répand à terre. Comment on aurait réagi? Dans Walking Love 2, il y a un chapitre qui est consacré à la vie de David, les erreurs qu'il a commises. Je pourrais vous citer plusieurs situations, et je le fais dans le livre, que vous auriez pu ne pas comprendre de cet homme de Dieu dont pourtant Dieu dit qu'il est un homme selon son cœur. En réalité, David nous aurait certainement déçus. Élie nous aurait certainement déçus. Paul nous aurait certainement déçus. Jésus nous aurait certainement déçus. Alors frère, avant d'aller un peu plus loin et aussi également de prier pour vous, je vais vous partager maintenant la présentation de ces trois livres. Il y a quelques années, une personne de mon entourage avait mal agi envers quelqu'un et j'avais pris la décision de la reprendre avec sévérité, même si cela pouvait nuire à notre relation. Mais une nuit, Dieu m'a montré que ma réaction n'était pas celle qu'il attendait, puis j'ai entendu audiblement ces trois mots « Walk in love ». La révolution Walk in Love était née. Dans Walk in Love 1, nous avons démasqué les ennemis invisibles qui empêchent d'entrer dans la volonté de Dieu, l'orgueil et la rébellion. J'ai alors partagé avec vous quel était le meilleur ami de notre destinée et comment entrer dans ce que j'ai appelé la révolution Walk in Love, une révolution qui nous introduit sans détour et avec succès au cœur de notre appel. Les deux nouveaux livres, Walk in Love 2 et Walk in Love 3, ont pour but de fortifier le cœur des leaders spirituels et de toutes les personnes qui sont appelées à aider les autres. Nous avons tous aidé un jour un ami, une sœur, un frère, et avons parfois fait face à des défis relationnels. Pourtant, nous oublions parfois qu'à l'image de Jésus, nous serons un jour incompris et rejetés, et que les relations fraternelles peuvent engendrer dans le cœur de celui qui veut aider les autres des souffrances cachées et des blessures profondes. À travers Walk in Love 2, je vous montrerai comment réagir aux injustices, éviter les erreurs courantes du ministère et persévérer dans l'amour. Je partagerai 9 erreurs commises par les pasteurs qui poussent les croyants à chuter. Ce livre sera pour tous un encouragement à s'appuyer sur Dieu avec fermeté au sein de l'adversité. Walk in Love 3 est le livre qui met à la lumière les coulisses d'une trahison. À travers la vie du roi David, nous découvrirons 25 types de personnes qu'on trouve au sein d'une église ou d'une division. Walk in Love 3 est une passionnante révélation que tout leader devrait découvrir. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Soyons certains d'avoir l'attitude qui convient à son retour et n'oublions pas que la miséricorde triomphe du jugement. Des milliers de personnes ont aimé et chanté le chant « Walk in Love ». C'est maintenant le temps de le vivre. « Walk in Love », c'est maintenant. Et oui, aujourd'hui donc, c'est le jour de la sortie de mes trois livres et je vous encourage à aller sur walkinlove.fr en description. Je vais vous mettre le site internet qui est très beau d'ailleurs pour découvrir donc les livres, comment, de quoi ça parle, etc. Mais comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, je vous l'ai déjà décrit. On parlait donc de ces deux histoires, je vous ai donné deux histoires sur la vie de Jésus. Et pour nous montrer qu'en fait, oui, on aurait certainement été déçus. À un moment dans les Actes des Apôtres, Vous savez qu'il a commencé à avoir des problèmes, les disciples augmentaient, les veuves étaient négligées dans la distribution, et les apôtres ont commencé à dire « il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour aller servir aux tables ». Et devant une telle déclaration, il y a plus d'une personne qui aurait dit, qui aurait crié au scandale et qui aurait dit « mais les apôtres sont tellement orgueilleux ». Ils disent et ils prêchent le message de Jésus qui a dit de venir et de laver les pieds des gens, mais eux, ils ne veulent pas se rabaisser à servir aux tables, que ce soit au niveau des finances, que ça avait été des repas ou autre. Et les apôtres, vous ne vous souvenez pas que Jésus a dit qu'il y avait plus de joie à donner qu'à recevoir? Vous ne vous souvenez pas que Jésus a servi le pain et le vin, il vous a même lavé les pieds? Mais vous, vous dites que vous ne voulez pas servir aux tables parce que vous avez d'autres choses à faire. Frères et sœurs, juger ne prend qu'une seconde. Mais comprendre prend plus longtemps. Alors, ni Jésus ni les apôtres n'ont employé un langage modéré concernant la critique et la méchanceté. Jésus a dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, le but de ce partage, c'est de se poser la question, est-ce qu'on aime vraiment notre prochain? Est-ce qu'on marche véritablement dans l'amour de Dieu? Dieu a dit, ce peuple, il se tourne vers moi, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce qu'on a seulement des attitudes, quelques paroles belles qui font qu'on s'imagine être un chrétien, un enfant de Dieu, ou est-ce qu'on a réellement le cœur, les paroles, l'attitude et les gestes d'un enfant de Dieu? Il est écrit, si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Il faut réussir, frères et sœurs, à voir plus loin que les actions. Je me souviens d'un serviteur de Dieu que j'ai rencontré. Et il était pasteur d'une église de 1000 membres et il avait à l'époque deux belles Mercedes. Et il était critiqué pour cela parce qu'il avait deux belles Mercedes. Et ce que les gens ignoraient, c'est qu'un jour Dieu lui avait demandé d'offrir une de ces deux voitures en cadeau à quelqu'un. Mais Dieu, un peu plus tard, lui avait demandé d'offrir sa dernière voiture restante. Et comme cet homme n'était pas attaché à l'argent, mais qu'il aimait Dieu profondément, il a offert sa deuxième voiture et leur famille n'avait plus de voiture. Et des gens ont été touchés et ils ne connaissaient pas la situation et il s'est vu offrir ces deux Mercedes. Comme je l'ai dit, juger ne prend qu'une seconde. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et je ne sais pas ce qu'il peut avoir dans votre cœur par rapport à quelqu'un. Je ne sais pas les jugements que vous avez pu avoir envers les autres personnes. Je ne sais pas ce que vous avez pu dire des gens qui sont autour de vous. Je ne connais pas votre niveau d'amour. Mais ce que je sais, c'est que Dieu nous appelle, et encore en cette génération, à marcher dans l'amour et un amour surnaturel. Avec les années où j'ai marché avec le Seigneur, j'ai, par la grâce de Dieu, rencontré le Seigneur il y a plus de 30 ans maintenant. J'ai vu tellement de dommages, de problèmes relationnels. Et comme je l'ai vu, comme je l'ai dit, c'est normal d'avoir des défis relationnels et d'être déçu de certaines personnes. Mais en réalité, on est aussi souvent déçu de nous-mêmes. Et le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mon frère, ma sœur, si vous appréciez le ministère que Dieu m'a confié, je sais que beaucoup d'entre vous, vous suivez mes enseignements depuis plusieurs années. Et je prie que vous puissiez saisir par l'esprit de révélation ce que Dieu a pu me partager afin que vous, l'Église, puisse vivre quelque chose de complètement nouveau par rapport à l'amour. Et je prie maintenant que vous puissiez être inondés dans l'amour de Dieu. Je prie que vous fassiez une rencontre toute nouvelle avec le Dieu qui vous aime et que vous soyez tellement imbibés de son amour et tellement prêts à pardonner et tellement prêts à vous humilier est tellement prêt à lui obéir et à marcher comme lui, que vous ne pourrez plus critiquer, que vous ne pourrez plus jamais avoir une racine d'amertume envers quelqu'un. Et c'est possible. Vous pouvez le vivre. Avoir un cœur dénué de colère, dénué de haine, dénué de mauvais sentiments. Et Père, je prie pour mon frère et ma sœur. Je crois, Père, qu'on s'est tellement et depuis si longtemps trompé sur ce que tu veux de ton peuple. On a tellement prêché toutes sortes de choses, tellement enseigné toutes sortes de choses que parfois on est passé à côté de l'essentiel. Tu disais de ta bouche aux pharisiens qui donnaient la dîme sur toutes choses qu'ils avaient oublié ce qui était le plus important, la miséricorde et l'amour, la justice. Et je prie, Père, que ce qui est juste pour toi, toi qui es amour, ta parole déclare Dieu est amour, tu es amour. Et je prie pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Père, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur cœur. Et pendant que je vais partager ces enseignements cette semaine, je prie que quelque chose de nouveau se passe à l'intérieur d'eux. Et je te demande, Père, s'il te plaît, comme tu m'as amené dans cette source sans fond de ton amour, amène-les dans un baptême d'amour qui va révolutionner leur vie avec toi et avec les autres. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Père, baptise-les dans ton amour. Je prie que tu leur donnes une révélation de la profondeur, de la longueur, de la largeur, de la hauteur de ton amour, et que cette révélation et cet amour puissent surpasser tout ce qui vient de l'intelligence. Père, tellement de fois on peut être déçu, tellement de fois on peut critiquer et juger facilement, c'est tellement facile de juger, c'est tellement facile d'émettre des paroles et des jugements sur les gens. Et tu n'es pas venu pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par toi. Et je prie, Père Céleste, qu'il en soit ainsi dans nos vies, que nous puissions ne pas être ces personnes qui jugent et qui voient la paille qui est dans l'œil de notre voisin, alors qu'à cause de ce jugement, une poutre est en train de se former en nous. Père, je prie aujourd'hui, pendant cette semaine, fais un miracle dans le cœur de ton peuple. Fais un miracle dans ce qui est le plus profond. Ceux qui sont blessés, ceux qui ont de la colère, même de la haine contre des frères. Père, je t'en prie, illumine les yeux de leur cœur. Ouvre leurs yeux et qu'ils puissent voir. Viens mettre du collyre à leurs yeux et guéris leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent aimer comme tu aimes, qu'ils puissent marcher comme tu as marché. Toi, Jésus, qui sur la croix, dans une souffrance et une agonie terrible, a pu dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils savaient bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ils t'ont cloué, ils t'avaient vu faire des miracles, ils savaient qui tu étais, mais ils t'ont cloué, ils ont refusé de se soumettre. Et pourtant, tu dis dans un élan de compassion, dans un amour profond et pur, « Pardonne-leur. » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je prie, Père, pour tous ceux qui écoutent, que chacun de nous puisse arriver à cette stature d'amour, comme Étienne, lapidé, fracassé par des pierres, pouvoir dire en tout temps, parce qu'il est inondé, imbibé de ton amour, pardonne à ceux qui me font du mal. Je prie qu'il en soit ainsi, Père, dans nos vies, afin de t'être agréable et d'être des gens selon ton cœur et de vivre une révolution d'amour et d'intimité avec toi, qu'il en soit ainsi dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Prière Inspirée sur emcitv.com.